théâtre d'Edmond Morel.
Philippe Besson, vous publiez chez Julliard votre dernier roman en date, intitulé « Retour parmi les hommes ». Et ce « Retour parmi les hommes » fait en fait suite à un roman qui était votre premier roman, dont tout le monde se souvient, qui a eu un très beau succès critique, puis public. Et vous avez éprouvé le besoin de reprendre ces personnages. Alors, ma première question serait comment vient chez un écrivain le besoin ou la nécessité de retrouver un personnage qu'il a abandonné ?
Oh, il y a une part de hasard dans tout ça et une part de désir, tout simplement. C'est-à-dire qu'on vit souvent avec ces personnages, ils continuent de nous accompagner, de nous hanter, de nous poursuivre. Vincent de l'Étoile, que j'avais laissé à la fin de L'absence des hommes, partant vers des exils, vers des ailleurs, était de ces personnages-là qui revenaient me visiter de temps à autre. Et puis, les lecteurs eux-mêmes me demandaient de ces nouvelles en me disant « Mais finalement, Vincent, vous l'avez fait partir, mais où ? Où est-ce qu'il est parti et qu'est-ce qu'il a fait ?» Alors, j'ai commencé à me poser moi-même la question. Et puis surtout, un jour, je me suis exilé moi-même. C'est-à-dire, j'ai quitté la France, je suis parti vivre ailleurs, à 9000 km de Paris, avec 9 heures de décalage horaire. Donc, je me suis moi-même mis dans la situation de l'exilé. Et là, je me suis dit « D'accord, j'ai compris peut-être maintenant ce qu'avait pu faire Vincent. » Et donc, je l'ai emmené justement vers des ailleurs. Je lui ai fait traverser l'Italie, l'Afrique, le Moyen-Orient, et puis ensuite prendre un bateau et traverser l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Voilà, donc je me suis dit, tiens, c'est un vagabond et suivons-le dans ses vagabondages.
Alors rappelons aussi l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Le roman rappelle les éléments du premier roman et se situe 7 ans après la mort d'Arthur, le compagnon, l'amant de Vincent de l'Étoile. On est donc en 1923, on se retrouve dans une époque à Paris dans laquelle vous faites se rencontrer des personnages réels et en vécu. Et votre personnage imaginaire. Oui. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette contrainte-là vous donne de la liberté ou pas ?
Ah, elle donne beaucoup de liberté, mais en même temps, il y avait cette volonté chez moi, justement, de raconter cette période des années folles, qui est une période de grande extravagance et de grande effervescence. Puisqu'effectivement, voilà, vous le disiez, en l'absence des hommes, ça se passait au cœur de la Première Guerre mondiale. Donc c'était une époque très, très dure. Il y avait une espèce de chape de plomb et évidemment cette extermination vertigineuse qui se passait là, juste à côté. Et tout d'un coup, 7 ans plus tard, Paris est une toute autre ville. C'est une ville qui oublie dans la légèreté et la désinvolture toutes les cicatrices du passé. C'est aussi une ville extraordinairement créative qui est le rendez-vous de toutes les intelligentsias du monde. Hemingway est à la Closerie des Lilas. Les chorégraphes russes se baladent dans la capitale et surtout il y a là du côté du Balbulier ou du Select ou de la Rotonde Picasso, Kessel, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Jean Cocteau. Donc ça m'intéressait de raconter cette période là qui est aussi une période de grande permissivité des mœurs, une période où on boit, où on chante, où les femmes coupent leurs cheveux, elles portent des pantalons, elles ont des fumes-cigarettes, où les garçons dansent sur les tables. Ça m'intéressait. Donc la liberté d'écriture, elle m'est donnée par la liberté de l'époque, d'une certaine manière. Et puis après, le fait de faire rentrer un personnage réel comme Radiguet dans cette fiction, c'est pas une contrainte, au fond. C'est là aussi un vrai bonheur, parce que j'avais déjà fait ça dans L'absence des hommes, qu'il y avait Proust qui apparaissait. Je l'avais fait aussi dans Les jours fragiles, puisqu'il y avait Rimbaud qui était le fil rouge. Et j'aime bien prendre ces personnages que d'abord j'admire, et qu'ensuite j'essaie de rendre le plus humain et le plus familier possible, le plus intime, comme si je les connaissais, à qui j'essaie de donner de la chair, une existence, voilà, de qui j'essaie de me rapprocher. Et donc Radiguet, c'était ça, c'était essayer d'approcher ce feu follet, ce personnage qui est passé comme une comète, comme une météore, dans le paysage des lettres français.
Vous évoquez cette liberté que donne la contrainte de l'histoire. On dit parfois, et Aragon le disait dans son Mentir vrai, que le roman est peut-être l'instrument qui permet d'aller au plus près d'une réalité, d'une époque. Et il me semble qu'avec ce roman-ci, de même qu'avec Absent parmi les hommes, vous aviez aussi fait cette tentative-là, resituer l'atmosphère humait l'époque.
Bien sûr, c'est-à-dire que on donne. Moi, j'essaie d'être un écrivain, un romancier qui donne à sentir, à éprouver, à ressentir, à s'approcher d'une situation, d'une époque, d'une période. On le fait à travers à la fois des grands faits historiques, des grands traits historiques, mais moi, je suis pas un historien. Et on le fait à travers des moments de l'époque, des choses de l'époque, des parfums, des situations, des instants. Voilà, ça m'intéresse. Et du coup, ça rend effectivement extrêmement vivant et vibrant. Moi, ce qui me fascine quand je lis des livres d'histoire, c'est que justement, j'ai l'impression de rester à la porte. J'ai l'impression qu'on me donne des faits, qu'on me rend érudit. C'est formidable, mais j'ai pas envie d'être un érudit. J'ai envie de sentir, de ressentir, de... Voilà. Donc, il faut... et de ce point de vue-là, le roman est extrêmement utile. Il faut donner... il faut passer par le côté, ou passer par les fibres, ou passer par des choses ineffables, mais qui fait qu'à un moment, on a une vision et une appréhension du temps, de l'époque, du moment, de la géographie, de ce qui nous entoure, beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile, parce que plus humaine et plus tactile.
On a parlé de l'époque, mais il y a aussi les lieux historiques. Mmh. Alors là, j'ai été très, très sensible à la lecture de la traversée de l'Atlantique, oui, qu'il fait, et puis de l'arrivée à Ellis Island. Alors, comment on écrit, comment on fait pour écrire ce genre de situation-là ? Tout le monde l'a vu, tout, ouais, le monde sait ce dont il s'agit, mais il faut le faire ressentir.
Ben, c'était ça la complexité. Donc là, il faut d'abord évidemment se documenter beaucoup pour avoir le background historique nécessaire. Donc il faut intégrer, ingérer le maximum d'informations. Et une fois qu'on les a ingérées, il faut les digérer. C'est-à-dire il faut les éloigner, les tenir à distance pour ne garder que la substantifique moelle et pour ne garder que l'essentiel et le parfum. Et voilà. Je me suis aussi beaucoup inspiré de récits d'Ellis Island de Georges Perec et Robert Bober, qui est un livre formidable, qui est à la fois un livre d'information, hein, très technique. On nous dit combien il y a de gens qui sont passés, quelles étaient les nationalités, quelles étaient les tailles des pièces à Ellis Island ou des cabines dans les bateaux, etc. Donc il y a des détails très techniques. Et puis il y a quelque chose qui traverse le livre qui est l'espoir ou le désespoir. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais pouvoir raconter la traversée de l'Atlantique. C'est essayer de faire comprendre qui sont ces gens, qui sont ces migrants qui sont à la fois très désespérés parce qu'ils ont quitté tout ce qu'ils avaient. Ils quittent leur terre, ils quittent leurs racines, ils quittent leur famille parfois, ils quittent leur maigre bien. Ils abandonnent ce qu'ils ont toujours connu. Mais en même temps, c'est aussi une traversée pleine d'espoir, parce qu'ils ont justement l'ambition et l'illusion de construire une nouvelle vie, une nouvelle existence dans un nouveau monde. Donc il y a cette idée folle que ça va aller mieux ailleurs. Et la Statue de la Liberté, quand ils la voient, c'est juste comme un phare qui éclaire leur vie. Et puis Ellis Island, l'entrepôt, quand ils arrivent, c'est juste le passeport pour une liberté. Bon. Donc c'était ça qu'il fallait donner à sentir. Et en même temps, ces traversées-là, c'était parfois très tumultueux, pas seulement à cause du temps et des tempêtes, c'était tumultueux parce qu'il y avait parfois des maladies qui se répandaient, parce qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas jusqu'au bout, parce que tout le monde était entassé, etc. Donc il y avait une promiscuité, voilà. Donc il fallait faire ressentir tout ça, tout ce mélange, y compris les odeurs de nourriture qu'on servait. Donc moi, je voulais donner le plus de choses là aussi à sentir, à toucher, à comprendre, pour voir à quel point... il y avait justement ça, cette espérance un peu folle qui animait ces gens.
On peut dire que ce roman, Retour parmi les hommes, est un livre sur l'exil considéré comme une métaphore du deuil, puisque finalement Vincent, le personnage principal, essaye d'assumer, de vivre avec la mort d'Arthur, qui est mort sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Alors est-ce que, arrivé au terme du livre, en tant que romancier, en tant que personne, vous avez compris ce qu'était un deuil ?
Oui, je vois à peu près ce que c'est. C'est-à-dire qu'effectivement, Vincent, il entreprend tous ses voyages avec l'espoir qu'il va laisser le malheur à distance et qu'il va essayer de dominer son chagrin, dominer sa tristesse et oublier le disparu, ou en tout cas tenter que ce disparu lui fasse un peu moins mal. Sauf qu'évidemment, on se rend compte que les exils ne règlent pas forcément toutes nos névroses et toutes nos obsessions, et que la douleur, ça n'est pas quelque chose qu'on laisse en consigne dans une gare, c'est quelque chose qu'on transporte avec soi. Donc pour faire son deuil, qui est une expression un peu galvaudée, mais qui finalement, pas forcément complètement idiote, pour faire son deuil, il faut que le temps passe, sans doute, il faut entreprendre ses exils et puis dépasser ses exils. Et voilà, alors moi je crois que ce qui caractérise ce livre-là, c'est qu'à un moment, Vincent va comprendre que on ne tue pas les morts, mais qu'on vit avec eux, que ceux qui nous ont quittés, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser, ils seront toujours un peu là, ils nous cerneront toujours un peu, mais qu'il faut faire d'eux des compagnies agréables, qu'il faut que penser à eux, ce ne soit pas une pensée douloureuse, mais une pensée calme, une pensée douce. Et il faut aller vers cette douceur. Tout le travail de l'apprentissage de l'absence de l'autre, tout le travail du deuil, c'est ça, c'est de faire qu'on puisse vivre avec ses morts, qu'on puisse accepter qu'ils soient autour de nous sans nous faire de mal.
J'aimerais revenir au choix que vous avez fait pour le premier roman et pour celui-ci qui en est la suite, de cette époque-là. Pour le premier roman, c'était la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a fait que le nouvel écrivain que vous étiez à ce moment-là choisisse une période comme celle-là? Est-ce parce qu'elle était plus dramatique, plus intense?
Alors, oui, parce qu'évidemment, il y a une telle intensité justement dramatique dans cette époque qu'elle ne peut qu'intéresser un romancier. Mais il y avait autre chose. Il y avait d'abord le fait que j'avais été très impressionné par les lectures, par la lecture que j'avais faite des lettres des poilus. Vous savez, ces poilus qui envoyaient des lettres à leurs femmes, à leur mère, à leur père, à leurs enfants, parfois restés loin du front. Et ça m'avait bouleversé. Et il y avait là une espèce de réalité qui terrifiante. Et je me suis dit, donc au fond, et ça ramène à la conversation qu'on avait tout à l'heure, au fond, la réalité n'est pas dite par les livres d'histoire, parce que les livres d'histoire vont vous dire, il y a eu tant de millions de morts. D'accord. Mais c'est quoi ces morts-là, une par une? Et donc, c'est ça qui m'intéressait, c'était de montrer un soldat qui était la métaphore de tous les autres, et qui nous montrait dans sa chair, dans son sang, dans ses blessures, dans ses doutes, dans ses espoirs, dans ses élans, dans ses abandons, tout ça, ce qu'avait pu être cette guerre. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était pas de parler de la guerre, mais de parler de la réalité concrète, quotidienne, de la guerre sur le corps des gens, sur leur tête, sur leur esprit. Et puis après, l'autre volonté, c'était évidemment de parler de Proust dans L'absence des hommes. Et c'était facile de les faire se réunir, puisque Proust a traversé lui aussi, d'une manière très différente, la Première Guerre mondiale. Mais en même temps, écrire, je lui faisais dire ça dans L'absence des hommes, écrire, c'est peut-être aussi tenir la guerre à distance, faire de l'art quand il y a autour de soi de la boucherie, de l'extermination, c'est peut-être aussi une façon de résister. Voilà. Donc c'était deux approches complètement différentes, mais c'est quoi le regard qu'on peut porter sur la guerre? Soit on va combattre dans les tranchées, comme l'ont fait des millions de jeunes gens, et des millions de jeunes gens y sont morts. On peut aussi écrire des livres. Écrire des livres, c'est aussi une façon de résister.
Alors, en 1923, pour Retour parmi les hommes, Proust est en quelque sorte remplacé par Radiguet, qui est son double, mais jeune, ouais. Et qui va mourir, parce qu'on sait que Radiguet écrit deux romans avant 20 ans, et puis il meurt. Cette figure de Radiguet représente quoi pour vous? Vous avez relu les deux livres,
j'imagine. J'ai relu Le diable au corps et Le bat du comte d'Orgel, bien sûr, mais Radiguet, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il personnifie justement cette période des années folles. C'est exactement le contraire de Proust, d'une certaine manière. C'est son double inversé. C'est-à-dire qu'effectivement, il est l'écriture, mais il est... la vitalité, la jeunesse, le jaillissement, les turbulences de cette époque effervescente qu'ont été les années folles et les années de Montparnasse, 1920, 1923, 1925. Il y avait à ce moment-là toutes les intelligentsias du monde qui accouraient à Paris. Vous aviez Hemingway à la Closerie des Lilas, vous aviez les ballets russes qui débarquaient, et vous aviez dans le même lieu, au Select ou à la Rotonde, Picasso, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Joseph Kessel, Radiguet, Jean Cocteau. On aurait du mal à trouver l'équivalent aujourd'hui. Hein. Donc, il y avait...
C'est vrai que votre roman permet de resituer aussi une certaine contemporanéité de ces personnages.
Bien sûr, ils ont tous été là ensemble, au même moment, ils se fréquentaient, ils se parlaient, ils prenaient des verres ensemble, ils travaillaient ensemble. Enfin, c'est cette espèce d'effervescence, d'émulsion intellectuelle, c'est fascinant. J'avais envie de raconter ce foisonnement. Et au fond, Radiguet, il est la métaphore absolue de ce foisonnement. D'abord parce qu'il a brillé de tous ses feux, et très peu en même temps. C'est-à-dire que tout le monde avait envie de le connaître, tout le monde est accouru vers lui, et en même temps, c'est la jeunesse éternelle, puisque c'est un ange foudroyé à 20 ans. Donc ça m'intéressait aussi pour ça, de parler de lui, de ce feu follet, cette fulgurance, de cette météore qu'a été Raymond Radiguet.
Alors, dans les personnages, il y a un personnage qui est un peu détonnant par rapport à l'espèce d'harmonie dans la souffrance même, mais qui est un personnage un peu détonnant, qui est le personnage de la mère. Alors, il est presque caricatural de vindication à l'égard de ce pauvre Vincent qui revient.
C'est la personnification de l'ancien monde et de l'ancien siècle. C'est-à-dire, c'est encore un personnage du 19e siècle. C'est un personnage ancré dans ses traditions, dans ses certitudes, en gros. enfoncé dans ses prérogatives et ses privilèges, et qui est convaincu que quelqu'un qui porte un nom à particules doit préserver ce nom et le perpétuer, qui a tout gardé pour que son fils ait tout. Voilà, c'est... Et en même temps, cette mère, qui peut paraître si froide et si digne, elle n'est pas exempte complètement d'amour, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que pendant 7 ans, elle aura fait chercher son fils sur tous les continents. Donc ça, c'est son geste d'amour à elle, c'est d'avoir fait chercher son fils partout. Après, quand il revient, elle lui manifeste une grande froideur, parce que chez ces gens-là, vraisemblablement, on ne manifestait pas ses sentiments, on s'en tenait aux choses apprises, à la bonne éducation. De la même manière que quand elle apprend la mort de son mari, elle dit « bon ben, faites chercher un médecin pour qu'on constate le décès ». Elle n'a pas le réflexe d'aller elle-même constater le décès. Il y a une espèce comme ça de... Il n'y a pas d'affolement chez ces gens-là, il n'y a pas de... Voilà. Et elle personnifie ça. Alors que son fils, lui, qui a bourlingué, qui a traversé le monde, il est dévasté par ses sentiments. Il est débordé par ses sentiments. Et elle contient tout. Voilà.
Philippe Besson, je vous remercie pour cet entretien et puis surtout et aussi pour votre dernier roman en date, Retour parmi les hommes, dont je recommande la lecture et qui nous incitera aussi peut-être à relire Radiguet et puis à redécouvrir Cocteau, Hemingway et tout ce monde. Merci Philippe Besson.
Merci à vous.
Les rencontres d'Edmond Morel.